Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty, avec vous bien sûr au 32-16 si vous voulez nous appeler sur le direct studio, si vous voulez commenter l'émission sur Twitter aussi, le hashtag RMC Live ou juste avec vos oreilles. Merci d'être là, déjà ça fait plaisir. Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Le Bayern Munich s'est fâché, Polo, ce soir. Il y a eu un mois de septembre très compliqué en Bundesliga. La trêve a fait du bien, semble-t-il. Victoire 4-0 face au Bayer Leverkusen.
Ouais, tout à fait. Et si tu veux, autant j'étais pas trop craintif avant la trêve internationale, alors que tout le monde s'énervait. Et autant là, je vais pas m'emballer après cette victoire, nette victoire. Déjà parce que Leverkusen ne va pas bien depuis le début de la saison, que Leverkusen passe son temps à se prendre au minimum un but dans le premier quart d'heure. Et comme ils ont un gardien Radecki, j'en peux plus. Il offre deux buts ce soir sur les quatre. Si tu veux, ça devient.
Je vous recommande le dernier. Si vous nous écoutez là.
Extraordinaire là, dans les gags de l'année là, donc c'est assez impressionnant. Donc évidemment au niveau du mental et au niveau du moral, ça fait du bien au Bayern Munich, parce que pendant 15 jours en Allemagne, en dehors de l'équipe nationale, on a passé notre temps en Allemagne à parler évidemment du Bayern Munich, ce qui allait pas, etc. On a même dit que Nagelsmann était en danger, il y a eu les rumeurs Thomas Tuchel, etc. Ce qui est sûr, ça faisait dire d'ailleurs en conf de presse à Nagelsmann que lorsque l'équipe d'Allemagne ne gagnait pas, il était pas forcément responsable, parce qu'apparemment il est responsable de tout ce qui ne va pas dans le football allemand, c'est Nagelsmann en ce moment en Allemagne. Donc si tu veux, il y avait quand même ce côté, la victoire fait du bien ce soir, elle a été facile, trop facile par rapport au standing théorique du Bayer Leverkusen. On peut d'ailleurs se demander comment ils ont fait pour l'emporter contre l'Atlético de Madrid d'ailleurs en Ligue des Champions, et ce que ça va donner contre Porto cette semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que Mané a marqué, Musiala encore une fois à 19 ans a fait un match extraordinaire avec un but de
pas décisif. Incroyable.
Devient vraiment impressionnant.
C'est ce qui va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va être titulaire ou pas? On sait que Gnabry a un peu la tête dans le sac. Coman n'est pas revenu encore de sa blessure, etc. Donc c'est sûr qu'il s'installe.
Ça joue comment, Polo, devant? Les quatre devant là?
En fait, c'est un 4-2-2-2. Théoriquement, mais en fait, ils n'arrêtent pas de changer de place systématiquement. Musiala se retrouve souvent en position de numéro 10, très proche de Thomas Müller. Mané, il se balade un peu partout. Mané, qui est encore une fois assez souvent hors jeu, c'est quand même une de ses grandes caractéristiques depuis le début de la saison. Et puis, tu as, comment ça s'appelle, il m'en manque un.
Sané.
En fait, c'est comme si tu avais 2-10 et un 9,5 Thomas Müller, plus un faux 9. Donc ça bouge beaucoup. Devant, ça permute beaucoup. Il y a eu moins, paradoxalement, beaucoup moins d'occasions ce soir que si on prend la moyenne des matchs précédents. Donc il y en a eu une vingtaine quand même, ce qui est assez impressionnant. Mais il y a eu une efficacité qui était là, parce qu'ils ont marqué quasiment dès la deuxième minute. Maintenant, encore une fois, défensivement, Leverkusen a de gros problèmes. Et Radecki, bon, voilà. Oui,
Une question. 74e minute, Sané qui sort. Choupo-Moting qui rentre. Pourquoi il met pas Matistel, là, un quart d'heure de la fin, tu gagnes 3-0.
Oui, il le fait. C'est à tour de rôle. Apparemment, il n'y a pas de préférence, etc. Je pense plus qu'il utilise son Choupo-Moting, qui est théoriquement un 9, alors qu'il n'a pas fait sa carrière en tant que 9. Lorsqu'il joue à Mayence, c'était plutôt en 4-4-2, où il a fait une grande partie de sa carrière aussi au poste d'ailier gauche, malgré son grand gabarit. Donc, non, il donne un peu de temps de jeu comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, le 11 de départ est à peu près celui qu'on va avoir sûrement contre Pilsen. D'ailleurs, c'est intéressant dans la semaine. Là, ils ont massacré Leverkusen, ils jouent Pilsen, et puis ce week-end, il y a le match à Dortmund, donc ça veut dire qu'ils le préparent, je pense, d'une très très belle façon.
Et à Paris, souvenez-vous, Choupo-Moting, des fois aussi, il jouait défenseur. Vous vous rappelez, il empêchait les
buts du PSG.
D'ailleurs, Polo, il n'était pas ailier gauche, il était attaquant d'aile.
Il a en 1-1, c'est pas forcément le meilleur du monde non plus. Mais à l'époque, il jouait souvent en 4-2-3-1, notamment à Schalke, mais c'est plutôt à Mayence où il jouait en 4-4-2 à l'époque.
Polo, une question. Sabitzer, est-ce qu'il a pris la place de Goretzka au milieu?
Non, alors je pense pas. Alors ce qui est sûr, c'est que Sabitzer nous fait une saison extraordinaire par rapport à celle très moyenne de la dernière. Donc il le dit lui-même, hein, il a compris ce que c'est que d'être au Bayern par rapport à Leipzig évidemment. Mais Goretzka, pour l'instant, comme il revient de blessure, en plus là il a eu le Covid, donc il était avec Manuel Neuer. Ce qui est sûr, c'est que Goretzka, il est en train de le faire monter tranquillement. Donc il va sûrement être titulaire contre Pilsen en Ligue des Champions. Et bien, il y aura une vraie concurrence, je pense, entre les deux, parce que Sabitzer a mis la barre très haut.
Il est enfin au niveau après une première année très décevante. Et le Bayern, faut jamais en tirer les joueurs trop tôt.
On revient à deux points au classement avec un match
du plus grand club des mondes.
après ce premier match de la 8e journée, l'Union Berlin. Merci Polo, on se retrouve lundi.
Salut, bon week-end.
Comme toutes les semaines dans Génération After, spécial drôle de dame. Je sais pas pourquoi je l'ai dit à la Marseillaise. Je t'ai regardé
la
en même temps.
De traîner avec Jonathan.
Oh, ouais, ça doit être pour
il y a
ça.
Un grand match hein, pour le Bayern. Il y a Pilsen et il y a Dortmund. Ça. Il y a Dortmund Bayern de la semaine prochaine.
Le derby,
c'est pas un derby. C'est un gros match.
Cet after, quelques infos, je t'ai déjà passé sur la suite.
En fait, tu vas trop vite.
C'était une manière un peu de vouloir te fermer ta bouche pour exécuter la suite. Ouais, le derby.
Je me dis, tais-toi aussi, ça marche. Hein.
Non, mais c'est moins poli. Les infos du jour.
Bon,
Lyon n'est pas vendu. On est pourtant le 30 septembre. Il sera minuit dans 6 minutes et 30 secondes. 29.
Allez.
28. Et Lyon ne sera pas vendu ce soir. Communiqué d'OL Group. Je vous rappelle que depuis le mois de juin, c'était la date du 30 septembre qui avait été prévue pour conclure, pour acter définitivement la vente de l'OL à John Textor. Communiqué donc de l'OL Group ce soir, qui décale de 3 semaines la vente. La date, ce sera désormais le 21 octobre. J'ai perdu le communiqué, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Lyon, qui devait donc acter la vente ce soir, ce sera le 21 octobre. Voilà, je retrouve le mail d'Edouard G en direct, tac, qui m'a envoyé le communiqué. Je cite, pour donner suite au communiqué diffusé le 30 septembre 2022, avant l'ouverture du marché, Eagle Football Holdings, dont John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Group se sont entendus par voie d'avenant à leurs accords sur le 21 octobre 2022 comme nouvelle date pour la réalisation de l'opération. Ce délai supplémentaire sera utilisé pour finaliser la documentation juridique et les dernières étapes préalables à la réalisation de l'opération. Bon, est-ce que vous le voyez comme un petit délai? Ce qu'on nous dit au club, les infos qu'on a, c'est que voilà, plus de 500 millions pour acheter le club, grosse opération, c'est normal, il y a beaucoup de documents, juridiquement c'est compliqué, pas d'inquiétude. Est-ce qu'on se dit quand même que décalé de 3 semaines, on arrive au 30 septembre, bon, c'est pas non plus l'opération.
Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ce genre d'opération d'une telle ampleur, sachant que l'Olympique Lyonnais est coté en bourse, l'OL Group est coté en bourse, tu ne peux pas te permettre des approximations de ce genre-là. À savoir que quand tu fixes une date pour une opération, elle doit être menée à bien pour la date fixée. C'est forcément un petit signal d'alarme. Alors, est-ce qu'il faut être totalement en panique? Je ne pense pas. On verra dans 3 semaines. C'est vrai que c'est une grosse opération et apparemment il y a eu des problèmes qui étaient plus d'ordre administratif. On verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas un bon signe. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin.
Toutes les infos là concernant ce communiqué sur rmcsport.fr. Info de la soirée, surprise en Afrique. La CAN 2025 n'aura pas lieu en Guinée. La Confédération africaine lui retire ce soir l'organisation. Les infrastructures ne sont pas prêtes. Donc la CAF va rouvrir un appel à candidature pour la CAN 2025.
Tranquille, le Qatar va prendre ses stades démontables et les faire comme ils ont dit, tu vois, les donner, les offrir à des pays en Afrique. On y croit, ça. Hein. C'est un peu compliqué.
Puis tiens, je voudrais conclure l'after dédicace
pour
toi,
réel,
Jonathan.
Mais non, ils ont promis, tous les stades qui sont construits sont censés être démontables et après être offerts à des pays en développement.
C'est comme les tentes, c'est des stades 3 secondes. Tu les jettes et ils se...
En fait, c'est fait avec des espèces de cubes en plastique. Non, mais vraiment, hein, c'est fait avec des espèces de conteneurs en plastique qui sont démontables et que c'est comme des Legos, en fait. Ils veulent nous faire croire ça.
Et pour conclure, il y a encore beaucoup d'infos, je pourrais vous donner, mais déjà, vous dire qu'on a un forfait acté en équipe de France pour la Coupe du Monde. Boubacar Camara ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est Aston Villa qui l'a annoncé sur le compte Twitter. Il est blessé au ligament du genou. Et donc, pas de Coupe du Monde pour Boubacar
Camara. Ligament, carrément.
Ouais. Jonathan, un commentaire?
Franchement, on tire pas sur les ambulances, aucun commentaire. Bon rétablissement aux joueurs partis à Birmingham.
La Aston Villa. La transition est toute trouvée, hein, la Coupe du Monde, J-49. Je vous rappelle, peut-être vous l'avez oublié, Jonathan l'a oublié, l'hymne de cette Coupe du Monde. Ah. Kim Seozuna, l'hymne officiel de la Coupe du Monde.
Vous voyez pas, mais il danse. Hein.
Et c'est où, Aston Villa, du coup?
C'est en Angleterre.
Et où?
Jonathan McCarthy.
À Villa Park.
Kevin Diaz.
Bah, à Birmingham.
Ah oui. Mais le nom du club, c'est Aston Villa.
Oh, allez.
On n'est pas sur PES 2002 avec les noms de clubs quand ils n'avaient pas les licences.
Ils jouaient pas la PlayStation.
Passer de la corniche Kennedy, de Marseille, du panier, de la Canebière, tout ça à Birmingham. Mon Dieu.
Merci Jo, merci Kevin,
merci
Adrien au standard, Nagy Toto en régie, merci surtout à vous d'être là comme tous les soirs, surtout ce soir particulier, vous étiez peut-être manette en main, je sais que vous avez été là, donc merci beaucoup. L'After revient demain à 21h, bonne nuit l'équipe, ciao.
RMC, l'After Foot.